C'est vrai, on est dans l'évangile de Luc et on va continuer. On est en Galilée. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Vous connaissez tous l'expression avoir le nez dans le guidon, avoir la tête dans le guidon. Non? Quand on a la tête dans le guidon, il faut imaginer qu'on est sur un vélo. On a la tête dans le guidon, on tient notre guidon, on pédale et puis on regarde le guidon. Mais c'est le guidon qu'on regarde. Ce n'est pas la route. Moi, je me souviens d'un jour, j'étais adolescente, on habitait à Fontaine-Melon avec ma famille, tout en bas du village, et puis j'ai pris mon vélo, comme d'habitude. J'ai pris mon vélo, je suis montée le craie, comme d'habitude, j'ai tourné à droite parce que je savais très bien où j'allais. Et puis en tournant à droite, j'arrive sur une route toute droite et à plat, donc facile. Donc, je pédale, je pédale. Je m'engage sur cette route toute droite et tout à coup, paf! Je suis arrêtée. J'ai foncé dans une voiture parquée. N'y avait personne dans la voiture. C'est moi, toute seule, qui ai foncé dans la voiture. Alors, autant vous dire que la voiture n'a rien eu parce que vu que je venais de finir une montée, heureusement, j'allais pas vite. Le vélo n'a rien eu, la fille n'a rien eu. Mais mon premier réflexe, ça a été de regarder autour de moi pour qu'au moins personne ne m'ait vu, parce que c'était trop la honte. J'avais tellement mes pensées occupées par je ne sais quoi que je fixais mon guidon. De toute façon, je connaissais la route, pas besoin de regarder. Et j'ai rien, j'ai pas levé mes yeux, j'ai pas regardé ma destination, j'ai pas regardé mon environnement, j'ai pas regardé ce qui était nécessaire de regarder. J'ai foncé droit dans l'obstacle. Eh bien, c'est comme ça, quand on a la tête dans le guidon, on est tellement préoccupé, on a nos pensées tellement occupées qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour du vélo, on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous, on ne voit même pas les solutions. On pédale, parfois vite, parfois lentement, on avance, mais en fait, on n'atteint jamais la cible. D'où l'intérêt de relever la tête. Eh bien, cette situation, c'est un petit peu celle d'une femme de Galilée, de la ville de Nain, ou Nain, je ne sais pas comment ce qu'on prononce exactement. Nain, c'est une ville, on n'a pas tellement d'informations sur cette ville, ce n'est pas très précis, mais on va se faire une petite récapitulation. Voilà, vous vous souvenez, Jésus, il est né. Ici, à Bethléem, vous voyez ma souris qui bouge. Ensuite, il a grandi à Nazareth. Une fois adulte, il est descendu se faire baptiser dans le Jourdain. Là, il a été revêtu du Saint-Esprit. Ensuite, il a passé 40 jours dans le désert où il a été préparé en résistant à la tentation, en utilisant la parole de Dieu. Quand il est sorti du désert, il était puissamment revêtu du Saint-Esprit et il est remonté à Nazareth, là où il a grandi. Et à Nazareth, il est entré dans la synagogue, il a ouvert, enfin, on lui a tendu le rouleau du livre d'Ésaïe, il l'a ouvert au passage d'Ésaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, guérir ceux qui ont les cœurs brisés. » Et il dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Il n'est pas trop bien reçu à Nazareth et du coup, il repart ailleurs en Galilée. Je vais changer de carte. Du coup, maintenant, on est en Galilée. Nazareth est ici, si vous voyez mon petit curseur qui bouge ici. Et puis Jésus, il est à Capernaum où il a son quartier général. Et au bord de l'eau, c'est là qu'il intervient, mais depuis là, il part d'une ville à l'autre et il va annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans toutes les villes, les villages où il passe, en fait, il est en train de démontrer que le Seigneur l'a oint, que le royaume de Dieu est arrivé. Il fait des miracles, il opère des guérisons, il délivre des gens qui sont possédés par des démons, et puis il enseigne. Dora, la semaine passée, nous a parlé de ces deux maisons, une qui est bâtie sur le roc, l'autre sur le sable. Eh bien, dans Luc, il y a aussi cette histoire. Alors, Dora a pris le texte qui est dans le livre de Matthieu, puis c'est juste à la fin du sermon sur la montagne. Eh bien, dans Luc, c'est le sermon dans la plaine. Donc, est-ce qu'il y a eu deux sermons ou est-ce qu'ils ont un regard différent? Mais voilà, dans Luc aussi, il y a ce sermon au chapitre 6. Donc, Jésus, il enseigne, il parle, il guérit, il fait des choses extraordinaires et les gens sont vraiment étonnés. Et tout le monde le suit. Tout le monde le suit parce qu'ils sont, éberlués par la puissance qui sort de lui. Par exemple, au chapitre 6, il nous est dit, ils étaient venus pour l'entendre. Je suis au chapitre 6, verset 17. Donc, il y a une multitude de personnes qui est venue pour suivre Jésus, depuis la Judée, depuis Jérusalem, depuis la contrée maritime, depuis Tyr et Sidon. Les gens, ils ont entendu ce qui se passe. La renommée de Jésus, elle n'arrête pas de grandir. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Deux choses. L'entendre, être guéri. L'entendre parce qu'il avait des paroles de grâce, des paroles qui transperçaient leur âme, qui restauraient leur âme, des paroles qu'ils n'avaient encore pas entendues, des paroles qui restauraient les gens. Et il guérissait. Les gens venaient pour ces deux choses. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'était incroyable. C'était incroyable. Alors imaginez ce cortège qui suit Jésus. Et là, Jésus, il part de Capernaum et il fait environ une journée de marche, 40 km, pour arriver à Nain. Alors, est-ce que c'est ce Nain-là? Il y a 2-3 questionnements, mais de toute façon, c'est dans cette région-là que Jésus se dirige. On ne sait pas grand-chose sur Nain. Donc, en fait, il faut comprendre que ce n'est pas forcément ça qui est important. Ce n'est pas le lieu où Jésus se trouve qui est important, mais c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va lire le texte dans Luc 7, les versets 11 à 17. Luc 7, les versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Deux cortèges que tout oppose. D'une part, on a Jésus avec ses disciples et avec une grande foule qui le suit parce qu'il a des paroles de grâce, des paroles de puissance, parce qu'il guérit, parce qu'il délivre des démons. C'est une grande foule qui suit la vie. Vous avez la vie, la lumière qui marche d'une ville à l'autre et un cortège qui le suit. Qui explose en louange, en espérance. Venez voir Jésus, touchez-le, vous allez être guéri. C'est l'effervescence. Et tout à coup, un autre cortège, un convoi funèbre. D'un côté, la joie, de l'autre côté, les lamentations, la tristesse. des gens qui sont habillés de sacs, qui se jettent de la cendre sur les cheveux. Il y a même des pleureurs professionnels qui sont engagés pour se lamenter, pour que toute la ville sache qu'il y a un deuil, qu'il y a quelque chose de difficile. Et toute la ville se rassemble et suit ce cortège. Ils sortent de la ville, ils sortent de l'endroit où ça foisonne de vie pour aller dans un endroit reculé. Détresse, chagrin, tristesse, non-espérance, non-vie, non-retour, impossibilité, obstacle. Voilà ce cortège. Alors, ce que le texte nous dit, c'est que c'était une femme veuve qui a perdu son fils. On ne sait rien de plus. On ne sait pas le nom de cette femme, on ne sait pas le nom de son fils. On sait juste que c'est un fils unique. Et on l'emmène hors de la ville pour être enterré. On emmène le fils pour être enterré. Parfois, à l'image de cette femme veuve qui est en deuil de son fils, parfois nos circonstances, elles nous font suivre un convoi funèbre. Parfois, notre focus, c'est un mort. Parfois, notre focus, le centre de notre attention, ce sont nos circonstances. C'est les difficultés avec un collègue. C'est des soucis avec l'un de nos enfants. C'est des difficultés relationnelles. C'est une recherche d'emploi qui n'aboutit jamais. C'est des difficultés de toutes sortes. Chacun, vous savez qu'est-ce que ça peut être dans votre propre cas. Et c'est des choses qui nous préoccupent. C'est des choses qui font qu'on a la tête dans le guidon. On regarde le guidon et on n'arrive plus voir ce qu'il y a autour. On n'arrive plus voir la cible. On n'arrive plus voir quel chemin emprunter pour contourner les obstacles. Alors la question ce matin, c'est quel cortège es-tu en train de suivre? Peut-être que pour des éléments de ta vie, pour 90% de ta vie, tu es en train de suivre un cortège de vie, mais il y a ce 10% qui suit un convoi funèbre. Et tu aimerais qu'il se passe quelque chose dans ce convoi. Tout oppose ces deux cortèges, mais à un moment donné, on a un arrêt sur image. Au verset 13, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. L'ayant vue. Jésus, il marche, il guérit, il fait son ministère et tout à coup, il voit cette femme. En une fraction de seconde, il scanne cette femme. Des pieds à la tête, de la tête aux pieds, il regarde, il voit, en fait, il voit tout ce qu'il y a en elle. Il voit toutes ses émotions qui sont complètement chamboulées dans tous les sens. Il voit sa détresse parce qu'il sait ce que c'est que d'être une femme veuve et qui vient de perdre son fils unique. Une femme, sans son mari, elle n'a pas le droit de travailler. Elle ne peut pas subvenir à ses besoins. Une femme, à cette époque-là, c'est une sous-catégorie. Et quand elle est veuve, eh bien, elle peut survivre seulement grâce au bon vouloir des gens qui l'entourent, de sa famille, si elle a de la famille. Son espoir, c'est son fils ou ses fils, parce que c'est eux qui vont travailler, c'est eux qui vont pouvoir subvenir à ses besoins. Et là, elle en a un seul, et il est mort. Peut-être même qu'elle a des filles qu'elle doit nourrir, mais ses filles, elles ne peuvent pas plus qu'elle. Il faut un homme, et ce seul homme, il est mort. Donc cette femme, en fait, elle se destine à une vie absolument terrible. C'est de la détresse, c'est de la précarité, de la pauvreté. En fait, elle se destine à devenir mendiante. C'est ça ce qui l'attend. C'est la mendicité. Donc d'un côté, elle a le chagrin. Elle a déjà perdu son mari, elle est veuve. Elle a perdu son fils unique. Il y a ce chagrin-là. Et en plus de ça, sa condition devient catastrophique. Voilà tout ce que Jésus voit. Et quand il voit tout ça, Jésus, il a son cœur son cœur qui frémit, là, ses entrailles qui frémissent, parce qu'il est tellement sensible. Il est tellement amour, il est tellement puissance de vie, que quand il voit qu'une personne vit des choses comme ça, ça ne le laisse pas insensible, ça le retourne complètement. Il est ému de compassion et il s'arrête. Il arrête sa marche, il fait un détour pour aller poser son regard sur cette femme et lui dire « Ne pleure pas ». En fait, ce n'est pas le problème de la femme qui préoccupe Jésus. Ce n'est pas le mort. Ce n'est pas ça le centre de sa préoccupation. Ce qui préoccupe Jésus, c'est la condition dans laquelle les circonstances de cette femme la mettent. Cette femme se trouve dans une condition qui ne va pas. Comme nous, parfois, nous sommes dans des conditions, j'ai envie de dire, qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. On a un Dieu qui est tellement grand, qui peut tellement nous relever, qui peut tellement nous guérir, qui peut tellement nous restaurer. Et Jésus voit la condition de cette femme à cause de ses circonstances. Et c'est ça son focus. Alors qu'est-ce qu'il lui dit ? Ne pleure pas. Non pas que pleurer est illégitime. C'est légitime de pleurer dans une situation comme ça. Mais parce que Jésus, il veut que cette femme, elle change de cortège. Cette femme, il faut qu'elle relève la tête. Il faut qu'elle relève la tête hors de son guidon. Il faut qu'elle relève les yeux. Jésus lui adresse la parole. Il faut qu'elle relève la tête, qu'elle le regarde et qu'elle reçoive ses paroles. Qu'elle ait un autre focus, un autre centre d'intérêt qui la fasse aller de l'avant. Et c'est la même chose pour nous. C'est vraiment la même chose pour nous quand on est en train de suivre un cortège de mort, quand on suit un mort, ou quand on a la tête dans le guidon. N'oublions pas que Jésus a son regard posé sur nous. Et il a quelque chose à nous dire. Il nous dit déjà, ne pleure pas. Mais il faut relever la tête. Il faut le regarder, il faut attendre. Mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ne pleure pas? Parce que pleurer est légitime. Être dans la tristesse est légitime. Avoir du mal, c'est légitime. Mais il y a autre chose. Jésus est venu nous donner de l'espérance. Alors vous me direz, bah c'est vite dit. C'est vite dit, ne pleure pas. C'est vite dit, relève la tête. C'est vite dit, hein? Oui, c'est vite dit. Parfois, c'est facile. D'autres fois, c'est beaucoup plus difficile. Parfois, on y arrive d'un coup. Parfois, ça prend du temps. En ce qui me concerne, des galères, des moments vraiment difficiles, des détresses, j'en ai vécu. Et il y a des fois, j'ai pu lever ma tête. Et des fois, ça a pris du temps. Et des fois, j'ai eu besoin d'un coup. J'ai eu besoin qu'on me secoue un peu pour me dire, mais vas-y, relève cette tête. Mais quand on relève la tête, ça fait vraiment toute la différence. Rien n'est trop difficile pour Jésus. Nous, on peut rien, mais rien n'est trop difficile pour Jésus. L'ayant vu, Jésus fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Jésus s'approche et qu'est-ce qu'il fait ? Il met sa main sur le cercueil. C'est quoi ce cercueil ? Certainement que c'est une sorte de brancard. Et sur ce brancard, ce jeune homme qui est mort, il est entouré d'un linceul, d'un drap. Mais son visage, sa tête en ressort. Ça, c'est comme ça qu'on faisait. Les gens qui avaient des moyens, on les embaumait. On leur mettait des petites bandelettes qui étaient imbibées d'encens, d'aromates, etc. Il pouvait y en avoir jusqu'à 30 kilos. C'est ce qui avait été préparé pour Jésus, par exemple. Mais sinon, les gens qui étaient de conditions plus modestes, eh bien, c'était simplement un drap qui les entourait. Et Jésus, il s'approche et il pose sa main sur ce cercueil, sur ce brancard. En fait, il est en train de franchir la limite du raisonnable. Pourquoi ? Jésus était juif et il y avait une loi en Israël. Toucher un mort, c'était s'exposer à l'impureté. Une fois que tu as touché un mort et que tu es impur, tu es obligé de te mettre à l'écart, d'aller faire certains rites pour redevenir pur et pouvoir retourner dans la société, dans l'assemblée, dans la synagogue. Donc, en touchant ce cercueil, ce mort, ce brancard, Jésus s'expose à l'impureté. Et pourtant, il le fait. Je crois qu'il y a vraiment un message là de se dire, mais quoi que ce soit que nous vivions, quel que soit ce mort que nous suivons parfois, quel que soit ce problème que nous avons dans notre vie, Jésus n'a pas peur d'aller le toucher. Jésus n'a pas peur de mettre la main dans le cambouis. Jésus n'a pas peur de plonger sa main dans nos impuretés. C'est justement ce qu'il est venu faire. Alors aujourd'hui, si tu es concerné par une situation de ce style-là, eh bien, n'hésite pas à inviter Jésus à venir plonger sa main dans les impuretés de ta vie ou dans ces choses qui sont tellement difficiles, ces choses qui te dépassent. Parce qu'une fois que Jésus a touché le cercueil, ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Jeune homme, je te le dis, lève-toi! Et le mort s'assit et se mit à parler. Facile! Facile! Et en même temps, vous imaginez ce cortège de personnes qui se lamentent, c'est la détresse, tout ça, et en une parole, paf, c'est fini. Ce cortège, il n'a plus sa raison d'être, ce mort, il s'est assis, il s'est mis à parler, Jésus le rend à sa mère. C'est incroyable! Comment est-ce qu'il a fait? Il a juste dit, lève-toi! Une parole d'autorité. Un mort, c'est quelqu'un qui ne voit plus rien. C'est quelqu'un qui n'entend plus rien. C'est quelqu'un qui est allongé de tout son long, complètement inerte, qui ne peut même pas bouger le petit doigt. Il ne peut rien, mais il peut rien. Par lui-même, il ne peut rien. Et les personnes qui l'entourent ne peuvent rien non plus. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, il ne se passe rien. Mais Jésus lui dit, lève-toi, et paf, le mort, il se lève. Il se met à parler et la vie continue. Il y a une subtilité dans ce texte. Il y a une subtilité qui doit nous encourager. Parce que Jésus ne dit pas seulement « lève-toi ». Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je te le dis. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire passer comme message ? Jésus, il est en train de dire « avec ma parole, je te le dis, je parle, lève-toi. » Jésus, avec sa parole, aujourd'hui nous l'avons dans un livre, mais elle est vivante, elle est efficace, elle agit. Avec sa parole, il ordonne aux circonstances de changer. Et c'est là que je rejoins ce que André a dit tout à l'heure et ce qu'on a vécu pendant cette semaine de jeûne et de prière. On a vécu des moments vraiment forts. Et il y avait justement ce thème de la restauration. Parce que je crois, et c'est ce qu'on a dit pendant cette semaine, le thème de la restauration, c'est le thème de l'année 2021. Que nous soyons restaurés, que l'Église soit restaurée, que nos relations soient restaurées, que notre âme soit restaurée. Et comment est-ce qu'on fait pour être restauré? Comment est-ce qu'on fait pour accueillir cette parole de Jésus qui nous dit « lève-toi » Eh bien, c'est quand on applique la parole à nos circonstances. On a pris l'exemple du psaume 23, c'est pour dire « mais Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, restaure mon âme, restaure mes pensées. Viens restaurer mes pensées, ces pensées qui travaillent dans tous les sens, viens les restaurer. Viens restaurer mon cœur, viens restaurer mes émotions. Restaure-moi, restaure mon intelligence. Élargis-moi pour que tu aies ta place en moi. Restaure-moi pour que je puisse entendre ta voix, que je puisse percevoir comment tu agis. Restaure-moi, restaure mon âme, restaure mon intelligence, renouvelle mes pensées. Viens illuminer les yeux de mon cœur pour que je puisse voir dans les lieux célestes, voir dans le monde spirituel comment toi tu agis. Viens me montrer comment tu agis dans ma situation. Restaure mon âme. C'est des prières à faire. prier le psaume 23. Seigneur, remplis ma coupe. C'est toi qui as écrit oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors je te demande de venir oindre d'huile ma tête. Viens que ton Saint-Esprit soit sur moi, que ce soit lui qui dirige mes pensées et que ma coupe déborde, que je sois comme cette coupe qui déborde de ta présence, qui déborde de toi, que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi qui vis en moi. Et quand je parle, on puisse entendre que c'est toi qui parles et que c'est plus moi qui parle. Ça, c'est des prières de la parole. Ça, c'est prier la parole. Ça, c'est permettre à Jésus d'agir au travers de nous. On commence par le faire pour soi-même, mais ensuite, notre prière, elle s'élargit et on commence à faire les mêmes prières pour notre entourage. Seigneur, je te demande de restaurer mon enfant. Restaure son cœur là où il est blessé. Restaure mon mari, restaure mon épouse. Élargis-le pour qu'il puisse te voir. Change-le, etc., etc., avec la parole, fondée sur des versets. De la même manière, quand on a comme ça la tête dans le guidon, on a besoin de relever la tête. Eh bien, vous pouvez vous appuyer sur le psaume 3, par exemple. Il y a tellement de psaumes qui peuvent vous aider, tellement, tellement. Pas seulement les psaumes, toute la parole. Mais là, vous avez un concentré de prière qui vous rejoint dans vos émotions, c'est dans les psaumes. Par exemple, le psaume 3, verset 4. « Mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. C'est toi qui me protège. C'est toi qui me protège contre ces pensées qui tournent dans tous les sens. C'est toi qui me protège contre ces flèches, contre les mauvaises paroles qu'on m'adresse. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche. Je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Seigneur, tu me fais reposer vers les eaux tranquilles. Accompagne-moi, emmène-moi dans ce lieu de repos. Voilà comment accueillir Jésus. Voilà quand Jésus vient toucher le cercueil et quand il dit au jeune homme, lève-toi, voilà la part que nous devons faire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand vous proclamez ces choses, la parole de Dieu sur votre vie, que vous en faites vos prières, ça stimule votre foi. Et qu'est-ce qu'elle fait la foi? Elle déplace des montagnes. C'est la foi qui va faire que les situations se débloquent. Je continue le texte. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifiait Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et la renommée de Jésus a continué de s'étendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, Jésus, à part enseigner, il a guéri des malades et il a délivré des gens sous influence démoniaque. Mais c'est la première fois qu'il opère une résurrection. Et c'est aussi la première fois que dans ceux qui assistent au miracle que fait Jésus, il y ait une confession qui aille si loin. Parce que si vous relisez un peu les chapitres précédents, eh bien les gens, ils sont étonnés de sa doctrine et ils disent « Quelle est cette parole ?» Ils sont frappés de stupeur, sa renommée grandit, ils glorifient Dieu en disant « Nous avons vu de grandes choses ». C'est ce que vous pouvez lire dans chaque fois qu'il se passe un événement dans les chapitres précédents. Mais là, ils disent, un prophète est parmi nous. Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ils sont en train de faire des liens avec Élie parce qu'à un moment donné, Élie, il a ressuscité le fils unique de la veuve de Sarepta. Et ils sont en train de penser à Élisée, parce qu'à un moment donné, Élisée, il a restauré, il a ressuscité le fils unique d'une femme sunamite. On lit ça dans Un roi et deux rois. Donc, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont plus vu de prophète. Il y a eu Jean-Baptiste, mais des prophètes qui ont fait des miracles, ça fait tellement longtemps, ça fait au moins 4-5 siècles. Et tout à coup, il y en a un parmi eux. Alors leur confession de foi, elle va plus loin. Mais ils ne reconnaissent pas que Jésus est plus qu'un prophète. Ils ne reconnaissent pas que c'est le Messie qui est parmi eux. Ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu en personne qui est parmi eux. Ils comprennent que Dieu les a visités au travers de ses miracles, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont dans la présence tangible, visible, auditive de Dieu. Ils ne comprennent pas que le Créateur marche dans sa création et que c'est pour ça que quand on le touche, il y a une force vive qui sort de lui et que ça guérit tout le monde. Ils ne comprennent pas, ils sont encore aveuglés. Ils n'arrivent pas à le recevoir, ils n'arrivent pas à l'accepter. Les seuls qui reconnaissent Jésus comme le Messie, c'est les démons. Et Jésus les fait taire. Parce que le monde spirituel, ils croient en Jésus, ils connaissent Jésus et ils tremblent. Mais nous, on a encore tellement de mal de le reconnaître tel qu'il est vraiment, dans sa divinité, dans sa puissance, dans sa force. Rien n'est impossible à Dieu. On a encore tellement de peine à le comprendre et à le vivre. Et c'est pour ça que cette parole, elle nous aide à y parvenir. À force de persévérance, à force de se l'approprier, de la connaître, et qu'elle entre toujours plus en profondeur en nous, ça nous change, ça nous transforme, ça nous édifie. C'est autre chose que la lire, c'est vraiment l'appliquer à nos propres circonstances. Alors c'est vrai, il nous arrive parfois d'être dans un cortège de vie, de suivre la vie. Et parfois, il nous arrive d'être dans un convoi funèbre, de suivre un mort. Jésus nous invite à lever la tête, à relever la tête, à changer de cortège, avec son aide, avec sa parole et son Saint-Esprit qui accomplit sa parole en nous et dans nos circonstances. Alors peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un a besoin de changer de cortège. Et moi, je vous invite à prier. Et si aujourd'hui, tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie, il y a un événement, il y a un aspect, il y a un domaine de ta vie où tu es en train de suivre un convoi funèbre, eh bien, je te propose de mettre ta main sur ton cœur comme un signe que tu dis à Dieu, « J'en suis là ». Et j'aimerais que tu viennes me rejoindre. Il y a quelqu'un qui a besoin de relever les yeux. Il y a quelqu'un qui a besoin de relever la tête. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir, d'aspirer, de boire les paroles de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être lavé, d'être restauré par l'eau de la parole. Reçois maintenant dans ton cœur, reçois ces confirmations, ces convictions que Jésus a son regard posé sur toi. Et qu'il veut t'aider à entrer dans cette démarche pour que tu changes de cortège et que tu suives la vie et que ta condition de vie change. Seigneur Jésus, je lève ton nom sur chacun d'entre nous. Je lève ton nom sur tous ceux qui ont mis leurs mains sur leur cœur, sur tous ceux qui aimeraient te voir agir dans l'un ou l'autre domaine de leur vie. Tu connais, c'est toi qui vois dans le secret des cœurs. Mais je te demande maintenant de venir poser ta main. Pose ta main sur notre brancard, sur notre cercueil à tous. Viens mettre ta main dans les impuretés de nos vies. Viens mettre ta main dans ces endroits qui sont encore cachés, ces endroits qui sont ténébreux, ces endroits qui n'entraînent que mort, qu'échec, que difficulté, que douleur, que souffrance. Viens mettre ta main. Et montre-nous à chacun, pour nos circonstances propres, quelles sont ces paroles que tu nous dis. Que des paroles de restauration viennent et descendent de ton trône pour venir nous toucher là où c'est nécessaire. Je te demande, Seigneur, d'intervenir puissamment dans les vies. Je te demande de restaurer l'âme de tous mes frères et sœurs qui sont ici ou à la maison. Tous ceux qui écoutent ce message, restaure leur âme. Restaure leurs pensées, relève leur tête. Je te demande de les amener dans un endroit paisible, un endroit dans de verts pâturages où il y a ta nourriture, où il y a ton abondance, où il y a ta provision, ta vie, où il y a les réponses aux questions. Je te demande de les amener dans cet endroit près des eaux paisibles, où ils puissent s'abreuver à l'eau de ta parole, qu'ils puissent recevoir cette eau qui guérit, qui restaure, qui lave, qui purifie. Je te demande que chacun ait sa tête ointe par ton esprit, que chacun puisse dire « ma coupe déborde ». Je te demande de remplir de ton Saint-Esprit chaque personne. Jésus, que tu demeures en chacun d'entre nous, que tu demeures en chacun d'entre nous, que nous puissions parvenir à dire « ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Viens transformer, viens renouveler, viens restaurer nos vies, viens restaurer nos âmes, viens restaurer nos pensées. Montre-nous des nouvelles perspectives. Élargis l'espace de notre tente. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux spirituels des personnes qui ont besoin de regarder à toi, qui ont besoin de recevoir tes solutions, tes stratégies. Apprends-leur à manier ta parole de façon efficace et qu'ils puissent vivre une réelle rencontre avec toi chaque fois qu'ils proclament la parole sur leur vie. Seigneur, que cette année 2021 soit une réelle année de restauration pour chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous en vive quelque chose où tu prends toujours plus de place en nous et dans nos circonstances et qu'on puisse te voir et que tu te glorifies. Sois béni, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Amen.